Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Le Nouveau Testament utilise des images pour nous aider à comprendre la relation qui existe entre Jésus-Christ et son Église. Dans la lettre de Paul à l'Église d'Éphèse, nous apprenons que l'Église est l'épouse de Christ. Que pouvons-nous apprendre de cette image? Étienne est de retour parmi nous pour nous en dire plus.
Ensuite, dans la deuxième partie de notre émission, Antoine nous rejoindra pour aborder tout naturellement le thème du mariage. Nos deux séries s'appuient sur l'enseignement de Paul, trouvé dans Éphésiens chapitre 5. À présent, Sandre va nous lire les versets 25 à 27.
Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme, comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable.
Merci. Étienne, bonjour et merci d'être de retour parmi nous.
Bonjour, Yann, et bonjour à tous.
Christ a donc aimé l'Église, voilà une belle vérité, qui est absolument merveilleuse. Mais par où voulez-vous commencer?
Tout simplement par l'affirmation qui se dégage de ce texte. Christ est le sauveur de l'Église. Oui, par amour pour elle, Christ est devenu son sauveur. En fait, les images sur le mariage utilisées par l'apôtre Paul s'inspirent probablement d'une parabole trouvée dans un livre de l'Ancien Testament écrit par le prophète Ézéchiel. La lecture de cette parabole est assez longue, mais fort intéressante. Cédons la parole à notre lectrice.
L'Éternel m'adressa la parole et me dit : Voici ce que le Seigneur l'Éternel déclare à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu appartiens à la terre des Cananéens. Au moment de ta naissance, personne n'a coupé ton cordon ombilical, personne ne t'a baigné dans l'eau pour te laver. Tu ne fus ni frotté avec du sel, ni emmailloté dans des langes. Personne n'a jeté sur toi un regard de pitié pour te rendre un seul de ses services. Au jour de ta naissance, on t'a prise en dégoût, et tu as été jetée au milieu des champs. J'ai passé près de toi et je t'ai aperçu, te débattant dans ton sang. Alors je t'ai dit, il faut que tu vives, même au milieu de ton sang. Oui, je t'ai dit, il faut que tu vives au milieu de ton sang. Je t'ai fait croître comme l'herbe des champs. Tu as grandi et tu t'es développée. Tu es devenue très, très belle. Ta poitrine s'est formée, tes poils ont poussé, mais tu étais toujours complètement nue. Quand j'ai repassé près de toi et que je t'ai revue, je me suis aperçue que tu avais atteint l'âge de l'amour. Alors j'ai étendu sur toi le pan de mon manteau et j'ai couvert ta nudité. Je t'ai prêté serment pour conclure une alliance avec toi. Le Seigneur l'Éternel le déclare. C'est ainsi que tu es devenue mienne. Je t'ai lavée à grande eau pour nettoyer le sang qui te couvrait. Puis j'ai enduit ton corps d'huile parfumée. Je t'ai habillée d'une robe brodée et je t'ai chaussée de cuir fin. Je t'ai drapée dans du lin fin. Et je t'ai couverte d'un manteau de soie. Je t'ai parée de bijoux. J'ai orné tes poignets de bracelets et ton cou d'un collier. J'ai mis un anneau à ton nez et des boucles à tes oreilles. J'ai posé sur ta tête un magnifique diadème. Tu étais parée d'or et d'argent, vêtue de fin lin, de soie et d'étoffes précieuses brodées. Tu te nourrissais de la farine la plus fine, de miel et d'huile. Tu es devenue extrêmement belle et tu es parvenue à la dignité royale. Ta renommée s'est répandue parmi les nations à cause de ta beauté qui était parfaite, grâce à la splendeur dont je t'avais parée.
Cette parabole retrace l'histoire d'une pauvre orpheline qui devient, en se mariant, une princesse royale. En nous plaçant dans le contexte de cette prophétie d'Ézéchiel, nous comprenons que cette jeune fille dont il est question représente l'histoire du peuple d'Israël. Toutefois, nous pouvons découvrir également dans ce récit la belle histoire de l'amour de Christ pour l'Église. Nous pouvons nous y approprier l'image éclatante du salut que Jésus apporte à l'Église.
Oui, et je trouve que les versets de l'apôtre Paul, cités en début d'émission, reprennent les mêmes idées trouvées dans cette prophétie. Pouvez-vous nous parler de cette parabole plus en détail?
Oui, bien sûr. Le début de la parabole décrit bien l'état lamentable de la condition humaine. Que nous soyons riches ou pauvres, nous sommes tous nés, et nul ne peut échapper à cette règle, dans un monde misérable, malheureux, méchant. Quel que soit notre arrière-plan, nous sommes tous nés dans le péché. Nous commettons tous des fautes, car nos cœurs sont profondément mauvais. Et les paroles de la parabole cherchent à choquer, car Dieu veut réveiller en nous la compréhension de notre véritable misère, de notre condition humaine. Aussi longtemps que nous restons loin de Dieu, aussi longtemps que nous refusons son amour et son salut, nous sommes perdus. Mais si la misère de notre condition humaine peut nous dégoûter, cette parabole nous présente la grâce et l'amour insondable de Jésus-Christ pour le pécheur. Trop d'hommes auraient abusé de la vulnérabilité de cette jeune orpheline, sans abri et vivant dans la misère. Trop d'hommes méprisent ou ignorent la condition de ces pauvres jeunes femmes abandonnées et seules dans le monde. Cette parabole est donc une belle histoire décrivant la compassion et l'amour pur. C'est la belle histoire d'un homme qui arrache sa bien-aimée de la misère pour lui redonner une dignité, pour restaurer sa beauté, pour lui accorder une vie heureuse, des richesses inestimables et le plus précieux de tout, l'amour et le respect. Cependant, l'histoire de cette jeune femme orpheline représente l'histoire de tout véritable croyant. Jésus est le Sauveur qui nous délivre de notre condition spirituelle et morale misérable. Jésus est le Sauveur qui nous arrache à notre solitude, à nos sentiments d'abandon, à la honte, à la culpabilité, à notre situation vulnérable, pour nous offrir à la place une relation privilégiée avec lui, pour nous permettre de vivre une amitié profonde avec lui, caractérisée par l'amour et la grâce. Jésus nous donne une dignité et le respect. Il nous fait vivre une vie nouvelle, une vie vécue en communion avec Dieu. Il nous offre la vie nouvelle.
Merci Étienne. Cette belle histoire nous aide à mieux comprendre l'amour fidèle et formidable de Jésus, notre Sauveur. Nous en approfondirons certains aspects lors de futures émissions. Mais en attendant, réjouissons-nous de la grâce reçue en Christ. Merci Étienne et à bientôt.
Je vous en prie Yann et au revoir à tous.
Oui, merci Étienne. La deuxième partie de cette émission est consacrée au thème du mariage. Comment construire un mariage solide, heureux et durable? Et que pouvons-nous apprendre de Christ à ce sujet? Voici des questions qui nous intéressent.
Antoine est de retour parmi nous pour nous accompagner dans nos réflexions. Bonjour.
Bonjour Yann. Et bonjour à tous.
Comment donc construire un mariage solide et heureux? Par où voulez-vous commencer?
Mon point de départ est celui-ci. Pour avoir toutes les chances de réussir son mariage, Jésus-Christ doit être au centre de notre vie de couple.
Autrement dit, il est vivement conseillé que notre conjoint soit un véritable chrétien.
C'est exact, Yann. Et je voudrais adresser quelques paroles à nos amis célibataires qui aspirent à se marier. Certains cherchent peut-être désespérément le mari ou la femme idéale. Si vous croyez en Jésus-Christ, il est alors essentiel, dans le choix d'un futur conjoint, de chercher une personne qui partage votre foi, une personne qui est sérieuse dans son engagement en tant que disciple de Jésus-Christ. Je sais que la tentation est souvent grande de se marier avec une personne qui n'adhère pas à la foi chrétienne. On peut penser que tout ira bien ainsi, mais souvent c'est plus tard que les problèmes apparaissent et c'est en de tels moments que l'absence d'une foi commune peut rendre la réussite d'un mariage plus difficile.
Merci pour cet avertissement. Mais comment faire alors pour que Christ soit au centre de notre mariage?
L'apôtre Paul, en Éphésiens chapitre 5, déclare que Jésus est la tête de l'Église. Il en est le chef. Dans le contexte du mariage, Jésus est le chef et du mari et de la femme. Tous deux doivent se tourner vers lui et se soumettre à lui. Lorsqu'un mari et une femme se soumettent à Jésus, leur Seigneur, ils aspirent alors à vivre les qualités qui peuvent faciliter la construction d'un mariage heureux et durable.
Et quelles sont ces qualités?
L'humilité et le besoin de dépendre de Jésus.
Parlez-nous d'abord de l'humilité.
Lorsque nous vivons soumis à Jésus, nous réalisons mieux nos défauts, car nous permettons à sa lumière de mettre en évidence nos faiblesses, notre vulnérabilité et nos péchés. L'humilité consiste à avoir une plus juste appréciation de ce que nous sommes réellement. Elle nous permet de voir la corruption de nos cœurs. Au sein d'un couple, un homme ou une femme qui manque d'humilité peut tomber dans l'orgueil et devenir très critique et exigeant envers son conjoint. Il peut ne plus supporter ses défauts et le blâmer pour les difficultés sans se remettre en cause lui-même. Nous comprenons que là où de telles attitudes persistent, le mariage court de grands dangers. Par contre, si grâce à leur foi en Christ, chacun des deux conjoints reste humble, ils reconnaîtront alors leurs propres fautes, ils seront plus disposés à la repentance et ils désireront faire des progrès. Ils deviendront plus conciliants l'un envers l'autre, plus disposés à pardonner, moins critiques et exigeants.
Merci. Parlez-nous à présent de la nécessité de dépendre de Jésus.
Dans un couple chrétien, chacun de son côté et puis ensemble reconnaîtra son besoin de se tourner vers Jésus pour rechercher son aide. Sachant que nous ne sommes pas parfaits et que nous désirons faire mieux, nous nous tournons vers Jésus pour trouver ses conseils et la sagesse contenue dans sa parole, la Bible, car ils peuvent nous aider à construire un mariage réussi. Quand Jésus est au cœur d'un mariage, il devient un exemple à suivre et une source d'inspiration et de force. Quand Jésus est au cœur d'un mariage, son esprit agit en chacun pour transformer notre caractère et produire en nous de belles qualités qui vont favoriser de meilleures relations au sein du couple. Ces qualités sont l'amour et la paix, la bonté et la fidélité, la douceur, la patience et la maîtrise de soi. Ces fruits n'apparaissent pas tout seuls. Il faut les rechercher dans une attitude de prière, de dépendance et de confiance en Jésus-Christ.
Merci. Et pour conclure, pouvez-vous nous dire brièvement comment travailler ces deux qualités, l'humilité et le besoin de dépendre de Jésus?
Oui. En bref, pour faire germer en nous de belles qualités et pour construire un mariage heureux, il est essentiel que le couple chrétien passe ensemble du temps avec Jésus. Il faut qu'ensemble, il le laisse parler par sa parole, la Bible. Si vous en avez la possibilité, lisez la Bible en famille. Sinon, vous pouvez discuter du contenu des prédications entendues à l'Église. Puis, il est tout aussi important de prier ensemble, de prier l'un pour l'autre, de se tourner tous deux vers Jésus pour rechercher son secours, sa grâce et son aide précieuse.
Merci Antoine pour ces leçons simples, mais combien importantes. Nos deux invités seront de retour la prochaine fois pour poursuivre nos deux séries. En attendant de vous retrouver, chers amis, je vous dis au revoir et à bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.